Voilà. Radio Campus 106.6 FM, campusil.com et en DAB+ sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Voilà, donc on va parler des incubés du Louvre-Lens-Valais. Louvre-Lens-Valais, donc cette pépinière d'entreprise, booster d'entreprise, qui est implantée dans l'ancienne école primaire Paul Bert des Corons de Lens. Le Louvre-Lens est en face. Bien sûr, il y a une association entre le musée du Louvre-Lens et ce lieu de préparation d'entreprise à un projet qu'elles ont imaginé et puis qui se poursuit dans le temps. Donc là, je suis allé, c'était début juillet, donc 2023, hein, pour les 10 ans de Louvre-Lens-Valais. Et donc il y avait une promotion en cours, la promotion 2023. Et donc il y avait, on va dire, une dizaine d'entreprises qui ont été épaulées durant cette période. Je pense que ça dure pendant 3 semestres, le fait d'être épaulé comme ça. Donc j'en ai rencontré plusieurs. Certaines vont être présentées aujourd'hui dans le cadre de ces reportages que j'y ai fait. Florian nous a rejoint. Bonjour Florian.
Bonjour René.
Donc, quatrième semaine.
C'est ça.
Voilà, pour donc co-animer avec moi et notamment revenir sur ce qui va être diffusé. Avoir peut-être une réaction, des réflexions, une analyse. Voilà, on compte sur toi Florian. Alors, ces entreprises sont vraiment très diverses. Donc, elles, pour certaines... sont dans une certaine forme de loisir, un travail autour des loisirs, de la créativité de toute façon, parfois aussi l'écologie, la culture. Voilà, on va découvrir tout ça. Tout d'abord avec cette première entreprise qui s'appelle Tails & Keys.
Moi c'est Jérémy, du coup j'ai 37 ans, je suis agent de voyage et je propose Tails & Keys. En fait c'est une découverte touristique de la ville ou de la région, un peu façon voyage dont vous êtes le héros. Donc il y avait les livres à la base dans les années 80, même années 60, et ici c'est au service de la découverte du territoire. Donc on va avoir une carte en physique avec d'un côté la carte de la ville ou de la région, et de l'autre côté il y a tout du storytelling qu'on va avoir avec beaucoup d'écrits. Il y a aussi un QR code qui mène vers l'application web qui est dédiée au jeu, et en fait sur l'application on va avoir l'idée des parcours qu'on peut faire dans la ville, qu'on va découvrir, et à chaque fois il y a beaucoup de narrations qui sont liées à la fois aux personnages historiques de la ville par rapport aux événements qui se sont passés. Et comme c'est de la fiction interactive, moi j'ajoute une couche en fait de narration qui est la mienne, et donc on s'embarque dans une aventure fictive en plus de l'historique pour découvrir la ville, mais avec une façon différente de le faire. Donc par exemple là sur Lille et sur Brest que j'ai déjà créé, sur Lille il y a deux parcours. Il y a un parcours plus facile quand on connaît pas la ville en 5 étapes, donc vraiment les points à voir absolument, et, où il n'y a pas d'énigme à faire, c'est juste un parcours piéton. Et il y a un deuxième parcours quand on connaît un peu plus l'île, avec des histoires un peu plus glauques on va dire. Donc il y a des histoires de sorcières, de momies, de meurtres qui sont toutes vraies. Donc on peut retrouver les archives à la Voix du Nord ou avec l'INA, qui sont aussi dans l'application. Et là par contre il y a la mécanique des livres dont vous êtes le héros. Donc on a le choix d'aller, est-ce que je vais résoudre l'énigme, est-ce que je vais plutôt passer à l'étape suivante, est-ce que je vais à la droite, est-ce que je vais aller à gauche. On a le choix, on parcourt la ville, il n'y a pas de point d'entrée, il n'y a pas de point de sortie, il y a juste l'énigme finale. En fait il faut récupérer toutes les clés par étape. Et tout le storytelling se déroule au fur et à mesure des étapes, et là on découvre vraiment tout le jeu à travers les écrits et l'histoire.
Donc ça s'adapte à la fois à des gens qui sont sur un court séjour et à des gens qui résident.
Alors dans les Hauts-de-France on est plus sur du 3-4 jours maximum, donc franchement c'est vraiment adapté sur l'île. Ça se fait en une demi-journée en prenant le temps, parce que j'ai pas mis de limite de temps exprès comme un escape game par exemple où c'est une heure. Là on peut faire ça une journée, deux jours, trois jours, un an, il n'y a pas de limite. On peut flâner, on peut s'arrêter dans les boutiques entre deux, entre chaque étape. Dès qu'on a une clé en fait elle est valable tout le temps, donc on peut faire chaque étape même une fois par semaine. On se dit oh, voilà, je suis sur l'île, j'en profite, je vais aller découvrir un petit point qu'il y avait sur la carte, et puis je continue au fur et à mesure.
Et donc le visiteur il a à chaque fois un but, une étape à trouver, à découvrir.
Voilà, c'est selon ce qu'il veut faire. Hein. Donc, il y a les 7 étapes du parcours plus poussées avec les énigmes. Donc, évidemment, le but, c'est de démêler l'histoire. En fait, elle est vraiment écrite de manière à ce que on la découvre et on a envie de savoir la suite, parce que c'est assez rocambolesque quand même comme histoire. Ça parle, par exemple, de la dynastie d'Habsbourg avec Charles Quint, avec un descendant caché qui était sur l'île, qui est arrivé dans les années 50. Donc, par rapport à un résident espagnol qui est mort momifié dans une maison. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est une étape du jeu. Et en fait, de fil en aiguille, on a envie de savoir la suite. Et on se prête au jeu, on résout les énigmes, et quand on est bloqué, il y a quand même des indices, etc. Donc là, c'est vraiment... Soit on récupère le jeu et la carte, parce que déjà, c'est un beau visuel, très steampunk, Jules Verne et Cthulhu, année 1900-1800. Soit on se prend vraiment au jeu, on fait les étapes, on découvre seul ou à plusieurs.
Donc comment on fait pour accéder à votre proposition ?
Donc là, par exemple, moi, je revends sur mon site les cartes. On peut les acheter. Je les envoie directement. Et dès qu'on a la carte, on a aussi l'application qui est derrière avec le QR code. Et là, c'est parti. On peut y aller directement. Il n'y a rien à activer. Il n'y a pas d'inscription à faire. Il n'y a pas de téléchargement d'application. Dès qu'on a la carte en format A2, comme un des plus en touristique, on peut aller sur l'île et c'est parti.
Le site ?
Le site, c'est talesandkeys.com.
On peut épeler ?
Donc T-A-L-E-S, comme tales en anglais. And, donc A-N-D, comme E en anglais. Et keys comme les clés, keys.com.
Voilà donc cette première entreprise, alors, qui a déjà une petite expérience dans une autre région de France. Florian, premières impressions à chaud comme ça ?
Je trouve que comme première impression, on est sur quelque chose de très positif, je trouve. Enfin, en tout cas, le concept de Tales and Keys, je le trouve très, très inspirant, et ça permet surtout de découvrir la région sous une autre facette, la facette du jeu. C'est très ludique et puis ça participe avec des histoires, etc. Moi, ça me fait penser un petit peu à un concept que je suis un petit peu sur YouTube. C'est un YouTuber qui parle un peu d'histoires un peu hors du commun, de légendes urbaines, etc. Qui parle avec ça au travers de monuments. En tout cas, les monuments un peu spéciaux sont des décors. Et aujourd'hui, il a créé une application où justement, en fait, on peut retrouver ces décors un peu là qu'il utilise dans ses tournages et qui sont en fait des lieux où en fait c'est des lieux un peu historiques mais assez oubliés, mais qui pourtant ont des histoires assez inspirantes et assez passionnantes. Et je trouve que ça s'inscrit un peu dans ce contexte là. Et c'est pour ça que je trouve que l'initiative elle est très bien, je trouvais. Ça permet d'amener des gens dans la région pour faire vivre des belles histoires, entre guillemets, enfin, au travers de belles histoires, je trouve.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du vieux Lille, où il y a des rues qui sont bien réhabilitées, on va dire. Pendant un moment, elles étaient dans un état lamentable, il faut quand même dire les choses. Puis, tout a été rénové, et donc ce sont des lieux qui inspirent un petit peu de mystère aussi, parfois.
Oui, c'est sûr. C'est vrai que là, aujourd'hui, avec le processus un peu de gentrification, c'est vrai que le vieux Lille a repris un peu du galon, mais c'est vrai que moi, j'ai pas connu le vieux Lille quand il était un peu
sordide.
Un peu plus sordide, voilà. C'est surtout mon père qui me raconte un petit peu quand il était un peu plus sordide, du coup. Mais c'est vrai que derrière, ça peut renvoyer à plein de mystères, surtout que c'est vrai que, certes, c'est de la rénovation, mais c'est des bâtiments qui sont très anciens aussi, donc... Et ça renvoie vraiment au côté historique de l'île, donc et c'est bien de raconter un petit peu toutes ces histoires qui sont cachées derrière ces bâtiments.
Et puis les bâtiments, il y a ce qu'il y a derrière, mais aussi il y a ce qu'il y a en dessous et que les gens ne voient pas toujours, les vieilles caves et puis les accès parfois, des choses bizarres. Donc voilà, je vous laisse en pleine découverte de ce monde mystérieux de Tales and Keys. N'hésitez pas à creuser. Voilà, ça n'a rien à voir, l'entreprise de Marie-Claude, Marie-Claude Box, elle s'est lancée dans la couture. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs dans cette pépinière d'entreprise que constitue Louvre-Lens-Vallée. Et donc voilà, la remise au goût du jour, on va dire, de, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'art, peut-être un peu, hein, c'est fonctionnel en même temps, on fait des vêtements, etc. Et puis on brode, enfin il y a plein de choses. Donc Marie-Claude et sa couture dans quelques instants sur Radio Campus.
Alors du coup, je m'appelle Romane, j'ai 23 ans et j'ai créé Marie-Claude. Marie-Claude, c'est la vente de patrons numériques et aussi imprimés, ainsi que de kits de couture avec des tissus de seconde main pour apprendre la couture aux débutants. Donc le but, c'est vraiment de permettre aux personnes débutantes ou même expérimentées de coudre leurs propres vêtements plutôt que d'acheter dans les grandes entreprises. Ce sont des vêtements qui sont plutôt intemporels, donc qui sont faits pour durer toute une vie. Et aussi, on a quelques accessoires. C'est principalement du prêt-à-porter féminin. Mais j'essaye de faire quelques pièces mixtes pour vraiment être le plus inclusif possible. Et pour l'instant, on propose de la taille 34 à 44. Mais pareil, on est en train de travailler sur ça pour pouvoir proposer un plus large choix de taille.
Donc, le public s'élargit, on va dire. C'est quelque chose qui était un petit peu perdu de vue, la couture, au départ.
Alors c'est vrai que la couture, c'était un peu perdu de vue. Moi, quand j'avais 16 ans, on me disait que c'était un truc de grand-mère. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma marque Marie-Claude, puisque c'était le nom de ma grand-mère côté paternel. Et aussi, chaque modèle porte un prénom ancien pour justement faire un gros clin d'œil. Mais c'est vrai que depuis que la crise du Covid-19, il y a énormément de personnes qui se sont remises à la couture. Tout simplement pour passer le temps. Et aussi, en ce moment, il y a énormément de personnes qui veulent revenir vers un mode de vie plus sain et plus responsable. Donc c'est vrai que la couture, ça revient finalement énormément.
Dans les villes, on voit des petites boutiques qui se mettent en place où les gens peuvent faire des stages, des petites formations, des ateliers en fait.
Oui, justement, je propose aussi des ateliers de couture. Donc pour l'instant, j'en ai pas fait énormément puisque Marie-Claude, ça a seulement ouvert en décembre 2022. Mais je propose des ateliers de couture, donc soit avec des particuliers dans des boutiques telles que par exemple la boutique Omabel à Liévin. Ou encore, je propose des ateliers avec des structures, comme récemment j'ai pu faire des ateliers avec des femmes en réinsertion professionnelle, avec le pli de Lens-Liévin. C'est quelque chose que je propose pour vraiment accompagner, en plus de ce que je fais déjà avec mes tutoriels vidéo et PDF.
Donc actuellement, votre base de clientèle, c'est qui ?
Alors, j'ai différents types de clients. Donc, par exemple, sur le site internet, c'est plutôt une clientèle qui est assez jeune, on va dire de 18 à 30 ans. Et le restant de la clientèle est jeune quand même. Mais c'est vrai que sur les ateliers couture, j'ai plus de femmes qui ont la quarantaine. Qui cherchent un hobby aussi ou alors qui justement avaient récupéré la machine à coudre de leur mère et souhaitent se remettre dessus. Donc la clientèle est assez variée, mais c'est principalement plus des femmes du coup qui apprennent la couture.
Donc c'est pour une distraction, un hobby, ou c'est peut-être des idées de développer des projets professionnels pour les gens qui viennent vous voir?
Oui, ça peut être des hobbies et des loisirs, comme un passe-temps. Moi, je sais que c'était ma passion, donc j'en ai fait mon hobby principal. Après, ça peut être une source pour se produire une garde-robe qui nous va parfaitement, comme il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à trouver des vêtements qui leur correspondent en boutique. Donc c'est vrai que la couture, c'est quelque chose qui est assez pratique pour ça. Même juste savoir remettre un pantalon à sa taille ou faire les ourlets, c'est assez pratique. Et ça peut être aussi une vocation, comme l'atelier que j'avais fait avec les femmes en réinsertion professionnelle. Il y en a certaines qui finalement avaient fait un CAP couture il y a plusieurs années et qui se sont remis dedans et qui finalement se sont dit pourquoi pas retourner dans ce milieu-là et en faire à nouveau mon métier.
Voilà, donc pour vous contacter, c'est facile ?
Oui, donc mon site internet, c'est marieclaude-couture.com et sinon sur tous les réseaux sociaux, c'est marieclaudebox, marieclaude B-O-X, donc sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et mon adresse mail, c'est contact.marieclaudecouture@gmail.com.
Voilà, alors Florian, on va pas trop broder sur ce sujet, mais juste une petite inspiration peut-être.
En tout cas, encore une fois, une belle initiative. C'est vrai qu'en plus, avec toute la thématique de l'upcycling, etc., surtout aujourd'hui, avec la conscience écologique qu'on a tous, c'est une initiative qui vaut le coup d'être partagée. J'avoue, moi, de mon côté, après, pour tout ce qui est activité manuelle, on dit souvent que oui, moi et telle activité, ça fait 2. Moi, je pense que ça fait 15. Donc, peut-être pas m'y essayer, mais en tout cas, c'est un concept. C'est un concept très bien pour ceux qui sont vraiment motivés, qui sont intéressés par la couture justement. parce qu'en plus vraiment c'est vraiment accessible à tous, on l'entend du coup, et donc ouais, ça vaut le coup d'être partagé.
Voilà, on va parler un petit peu de tourisme, voyage, voilà, déplacement, avec une autre façon justement de le faire. Itinéraire bis.
Bonjour, Alban de Maigret, je suis la cofondatrice d'Itinéraire bis avec Laurent Chappet, mon associé, et Marie. Nous avons créé cette application qui a pour vocation de promouvoir le tourisme durable en France au détriment du tourisme de masse. Concrètement, si vous connaissez Waze, Itinéraire bis, c'est l'antithèse de Waze. C'est comment voyager en prenant son temps sur les petites routes à la découverte du patrimoine local.
C'est un peu le nouveau guide vert.
C'est un peu le nouveau guide vert, mais la différence, c'est que c'est du purement sur mesure. Concrètement, nous allons référencer un certain nombre de points d'intérêt du patrimoine naturel, du patrimoine culturel, de la dégustation, du terroir, des fêtes et manifestations locales. Et vous allez choisir, vous, ce qui vous intéresse. Et dès lors, on va vous générer des carnets de route personnalisés selon vos goûts, toujours sur les petites routes, de façon à prendre le temps de redécouvrir nos terroirs. Et en marge de cela, nous créons du contenu sous format soit d'articles, soit de podcasts, qui est de notre expertise, pour valoriser les acteurs du tourisme et pour aussi désengorger ces sites touristiques qui sont malmenés parce que le surtourisme dont on parle beaucoup en ce moment, alors qu'il y a parfois juste à côté une petite pépite qui est méconnue parce qu'elle n'est pas dans le guide vert, justement. Et notre idée, c'est de valoriser tous ces acteurs-là.
Alors, c'est fait pour les gens à pied, à cheval, en voiture ?
Alors, nous parlons beaucoup de mobilité douce en ce moment, mais il faut aussi se rendre à l'évidence, c'est qu'aujourd'hui, 74% des Français voyagent en voiture, que tout le monde n'a pas encore accès ni à l'électrique, et que pour les familles, c'est pas toujours aisé de voyager en trottinette ou à cheval. Donc, nous nous adressons aux automobilistes, avec évidemment l'intégration de plus en plus des bornes de recharge électrique sur la route, qui peut être propice à l'écoute d'un podcast pour s'enrichir pendant ce temps-là plutôt que d'attendre bêtement. Et puis progressivement, on se dit que c'est une première étape déjà de désengorger les côtes, enfin ces 20% du territoire qui sont envahis par 80% des touristes. Et l'idée, c'est de transformer les touristes en voyageurs.
Donc ces voyageurs, ils se préparent combien de temps avant ? Ils peuvent, sur l'instant même, trouver un plan ?
Exactement, ça peut être soit préparation en amont de leur voyage, se dire bon, nous on est plutôt très patrimoine culturel, avec des sous-rubriques évidemment qui sont proposées. Ils peuvent le faire en amont, ils peuvent déjà générer leur carnet de route et puis ils n'auront plus qu'à le reprendre et puis ils seront géolocalisés lorsqu'ils commenceront leur parcours. Ou sur place, à la dernière seconde, se dire bah tiens, j'ai une après-midi libre, j'aimerais visiter des sites patrimoniaux, que puis-je faire ? Et ils vont sur l'application et ils auront réponse immédiatement à leurs questions.
Alors ici, nous sommes à Lens. Alors j'ai vu que vous voyagez loin, hein. Vous proposez donc des randonnées, des routes qui ne sont pas forcément des Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous avez d'intéressant, découvert peut-être, que vous mettez en connaissance au public ?
Alors, je vais être très, très factuel. Nous n'existons réellement que depuis le 4 mai 2023. Et il se trouve que c'est une question d'opportunité. Le territoire qui a désiré devenir le pilote de ce projet, c'est le Pays de Grâce. Donc nous sommes bien loin des Hauts-de-France. C'est une première pierre. Il faut toujours commencer. C'est la pierre d'angle qui a vocation à terme à couvrir la France entière. Et puis, évidemment, on veut être ambitieux, sinon ça n'aurait pas de sens. Répliquer en Europe d'ici 3-4 ans ce concept.
Voilà, donc d'autres façons de voyager, de prendre son temps. Alors le temps, est-ce que c'est encore un luxe ? Donc comment tu peux nous dire ça, Florian, de ton côté ?
Je pense que le temps n'en est pas forcément un. C'est juste qu'il faut, je pense, savoir saisir un petit peu l'opportunité quand on le peut. Après, évidemment, on a tous nos envies, mais je pense que c'est bien de justement prendre son temps sur son trajet pour les vacances. Moi, ça me rappelle l'exemple de mes grands-parents qui font tout le temps ça. Ils font jamais d'autoroute, ils passent toujours par les petits chemins, comme on dit. Je pense que ça peut nous faire découvrir des beaux territoires, des petits coins de territoire qui sont très beaux à voir. Et du coup, voilà, savoir un peu prendre le temps sur la route. Surtout que je pense que ça nous rend le trajet moins stressant puisque avec ça, entre guillemets, pas de bouchon, pas de, voilà, pas de problème. Et puis en plus, là, ce concept permet de que ça soit ouvert à tous encore une fois. Donc, le concept est bon à prendre, comme voilà. Il est bon de prendre son temps.
Et le plaisir de la découverte, bien sûr.
Surtout.
Surprise, surtout. Surprise. Alors, on est dans un monde où on a beaucoup jeté jusqu'à maintenant. On se pose quand même la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place de ces poubelles qui se remplissent et qui finissent, on ne sait où. On a sans doute beaucoup exagéré. Maintenant, on le paye, c'est clair. Hein. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est peut-être un peu trop tard, mais en tout cas, certains font. Et c'est ce qu'on va entendre maintenant avec le collectif Rien n'a jeté sur Radio Campus Lille 106.6 FM.
Eve Servant, projet Rage collectif Rien n'a jeté.
Voilà, donc on est un petit peu dans cette nécessité de préserver les ressources, donc de rejeter ou de jeter le moins possible.
Exactement, et de recyclage et de réemploi surtout.
Donc qu'est-ce que vous recyclez et comment ça fonctionne votre écosystème ?
Alors l'idée en fait c'est d'implanter dans la région Hauts-de-France une ressourcerie qui serait principalement axée sur la récupération de décors et de matériel de scénographie. Il y a des structures existantes similaires qui existent jusque Paris. Mais dans les Hauts-de-France, on n'a rien, alors qu'on a quand même une activité culturelle, des musées et un certain nombre de tournages plutôt en croissance. Et on n'a absolument rien.
Donc, dans les musées, il y a des cahiers des charges qui existent, qui, à chaque, on va dire, nouvelle opération, rénovation, etc., doivent plus ou moins remettre dans leur circuit ce qu'ils ont déjà quelque part en ressources. Est-ce que vous accompagnez ces projets ?
J'espère pouvoir accompagner ces projets dans le futur. Pour l'instant, le projet n'est pas encore sur pied. Il est en cours de montage, mais effectivement, ça fait partie du projet.
Donc, comment vous voyez votre élargissement, votre rayonnement ? Pour l'instant, vous travaillez avec quelle collectivité dans la région, par exemple ?
Pour l'instant, je travaille avec aucune collectivité. Je suis vraiment à l'écriture et au montage du projet. Pour l'instant, je suis accompagnée par le Louvre Lens-Vallée pour le montage du projet, mais je n'ai pas encore de partenaire officiel.
Donc l'idée, peut-être, c'est qu'il s'intéresse à vous. Si vous avez des solutions, alors apportez. Sur quoi on peut voir ces propositions ? Il y a un site web, il y a une visibilité de ce que vous proposez ?
Le site web n'est pas encore établi. Il y a des pages sur LinkedIn et il y a une page sur Facebook qui informe en fait de l'intention du projet.
Donc on peut dire que c'est un projet ou un marché de niche très spécifique, très particulier.
Oui, c'est vraiment axé sur tout ce qui est décors et scénographies qui sont jetés à la benne parce qu'on ne peut pas les stocker, parce que pour plein de raisons. Et après, l'idée, c'est de remettre ces choses en service, soit par les valoriser et soit les vendre, soit relouer aussi des éléments existants qui peuvent être utilisés tels que. Il peut y avoir de la mutualisation aussi. Donc ça nécessite forcément un espace de stockage et la création d'emplois aussi.
Pour l'espace de stockage, vous avez une idée de l'implantation ?
Je pense que dans un premier temps, ce serait assez malin de mettre ça autour de la métropole lilloise, dans la mesure où il y a beaucoup de tournages audiovisuels et cinéma qui se font entre Lille, Roubaix, Tourcoing et aux alentours. Et à savoir aussi que le problème le plus urgent, c'est effectivement les déchets de l'audiovisuel et du cinéma. Pour tout ce qui est musée, salle de spectacle et spectacle vivant, c'est pas les mêmes rythmes, ils réutilisent beaucoup plus alors que le cinéma, c'est pas forcément une idée de tendance à jeter, mais c'est aussi qu'un tournage par exemple qui vient se faire sur Lille alors que c'est une prod de Paris ou de Marseille, ben, c'est difficile de repartir avec tous les éléments de décor. Ça ferait une empreinte carbone au niveau du transport assez phénoménale, donc, et puis un coût monstrueux. Donc la solution à moindre coût, c'est jeter, ça coûte le prix de la mise à la benne. Voilà.
Alors c'est vrai qu'il y a la Pleine Image, il y a Pictanovo, ils sont en contact avec forcément les gens qui veulent tourner en région, ils leur donnent des conseils. Est-ce que vous avez glissé votre carte de visite là-bas ?
À Pictanovo, ils sont au courant depuis le début du projet, enfin de mon intention de monter le projet et... Je suis en lien avec eux, j'espère qu'un jour on pourra avoir un vrai partenariat.
Voilà, ben on vous voilà. Le souhaite en tout cas.
Merci beaucoup. Merci.
Voilà, donc effectivement, j'ai pu discuter avec un réalisateur il y a 15 jours, un film qui a été tourné en partie donc à Arenberg, le site minier, et qui me disait qu'ils avaient eu la chance de récupérer les décors de Germinal, un décor d'un film qui a été tourné là précédemment, mais que souvent tout part à la benne. Florian ?
Bah oui, bah tant mieux, c'est vrai que... Justement, si on peut ne pas avoir à jeter des éléments de décor, surtout pour des films assez importants en plus. Et puis au moins, ça nous permet de mettre en avant le patrimoine, puisque ça donne envie aux gens de venir, parce que les décors sont là et sont prêts pour d'autres réalisateurs qui ont envie de venir tourner leurs films dans nos régions et même ailleurs.
Voilà, dernier sujet, eh bien, ça s'appelle Humus. Surprise, surprise, Humus, what is this?
Alors, je suis Clotilde Gomi, je suis la fondatrice de la marque Humus, UMUS. Et l'ambition que j'ai avec cette marque, c'est de proposer des produits sans aucune matière d'origine animale, objectif zéro plastique et fabrication locale, avec une grande attention portée au design et à la qualité des matières et de la fabrication. Donc là, j'ai commencé avec des chaussures qui respectent donc le fil rouge que je viens de vous donner. Et très rapidement, je vais développer une autre gamme avec des accessoires et des vêtements.
C'est quoi alors la matière ?
Alors ce qu'on appelle la tige, le dessus de la chaussure, c'est du coton et du lin. Et la semelle, c'est une semelle en caoutchouc naturel, donc c'est du lait d'EVA. Donc c'est complètement naturel.
C'est vrai que le lin, on en cultive beaucoup en région, on l'exploite très peu finalement.
Oui, effectivement, mais en fait c'est une matière qui est très appropriée pour la chaussure parce que c'est antifongique. Et ça, quand c'est un peu humide, ça s'adapte bien.
La plupart de la production part en Chine, hein ?
Alors, il y a une production de lin qui est en train de revenir dans la région avec un projet qui s'appelle L'Important. En fait, effectivement, on a perdu il y a quelques années une partie du savoir-faire, mais c'est en train de revenir en Europe et en France.
Donc, pour l'habillement, etc., là, on est sur une gamme de chaussures, hein ?
Là, c'est la chaussure. Je suis en train de développer... Donc ça, c'est un premier modèle. Je suis en train de développer une nouvelle collection avec trois nouveaux modèles de chaussures. Et très prochainement, il y aura aussi des accessoires et des vêtements.
Donc ces chaussures, elles sont conçues en série ou à l'unité ?
Alors elles sont un peu quelque part entre les deux, c'est-à-dire qu'elles sont conçues pour pouvoir être développées en plus grand nombre. Là pour l'instant, j'ai fait un lancement en 2022 avec une relativement petite quantité, mais l'objectif c'est d'augmenter la cadence et de le proposer au plus grand nombre.
Donc on peut dire pour l'instant, chaque production c'est un prototype.
Alors c'est pas un prototype, mais c'est une production, je pense qu'on peut qualifier d'artisanale. Mmh. Et là en l'occurrence, ces chaussures-là, elles sont faites à la main. Donc le piquage, donc la couture hein, de la tige, c'est fait à la main avec des machines spéciales adaptées à la chaussure. Et tout ce qui est semelage, assemblage, c'est fait... par un fabricant qui est en France, qui est du côté de Cholet. Et les semelles, elles sont mises à la forme de la chaussure, à la main, littéralement. Donc c'est vraiment de l'artisanat et la personne qui travaille dessus, il le fait vraiment avec le compas dans l'œil, presque, pour avoir deux chaussures qui soient identiques. C'est pas fait par des machines.
Donc il y a plus d'un siècle, il y avait des cordonniers qui fabriquaient les chaussures. Est-ce que vous revendiquez de cette corporation ?
Alors je dirais pas ça, parce qu'en fait la volonté quand même de la marque, c'est de toucher plus de personnes, parce que moi mon ambition c'est de proposer des produits qui sont beaux et propres à un maximum de personnes. Mais par contre il y a toujours cette attention à la sélection des matières, la qualité de la fabrication pour avoir des beaux produits solides qu'on peut garder longtemps.
En termes de matériel, instruments, outils, vous avez tout un outillage particulier ?
Alors moi non, mais par contre les partenaires avec lesquels je travaille, oui, donc les fabricants, notamment sur le piquage de la tige, bah, c'est des machines spéciales pour la fabrication des chaussures et pour tout ce qui est la fin du travail, la finition des chaussures, donc le montage et le semelage. En fait, je collabore avec un fabricant français qui est du côté de Cholet et qui lui a des machines spéciales, notamment parce que j'ai ce qu'on appelle un cousu bleck, qui est une couture qui solidarise de manière très solide la tige, le dessus avec la semelle intermédiaire. Et donc ça demande des machines qui sont très spécifiques, que très peu de gens ont et que très peu de gens maîtrisent. Et donc ce fabricant a les machines et le savoir-faire.
Et donc le fait de concevoir des chaussures réalisées avec cette technique, c'est presque une spécificité.
Ah, c'est des chaussures que très peu de gens font. Moi, j'ai choisi cette technique-là avec l'aide du designer chaussures. Hein, c'est un choix technique parce que ça les rend très solides et réparables. Et donc, effectivement, ça a un prix hein, et ça demande un savoir-faire spécifique. Donc, tout le monde peut pas faire ce type de construction. Mais c'était une volonté dès le départ parce que je voulais des chaussures haut de gamme, très qualitatives et solides.
Alors, prévu homme, femme
Dans toutes les pointures. Ça, c'était une volonté aussi depuis le début, qu'on ait des petits pieds ou des grands pieds, on peut s'habiller en humus.
Ceux qui ont des demi-tailles.
Eh bien, je leur conseille de prendre la pointure du dessus.
Très bonne idée. Donc voilà, votre projet se développe comme vous le souhaitez. Vous avez un plan?
Bien sûr, j'ai un plan. Alors, j'aimerais que ça se développe plus rapidement, mais ça avance. Donc là, je suis en train de développer une nouvelle collection, une mini-collection chaussures, accessoires, vêtements. Et puis, l'idée, c'est de trouver des points de vente, donc des revendeurs, donc des concept stores, des multimarques, des grands magasins qui soient OK pour revendre mes produits et toucher un maximum de personnes.
Vous prévoyez un défilé de mode à Louvre-Lens-Vallée?
Alors, c'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas?
Il y aurait matière?
Quand il y aura des vêtements, effectivement, il faut un peu plus de pièces que ça pour faire un défilé, mais pourquoi pas?
Avec d'autres créateurs ici?
Alors, l'idée du défilé, c'est, en tout cas, moi, j'ai envie de présenter mes pièces avec le fil rouge, ce qui me porte, en fait, mes engagements. Donc, aucune matière d'origine animale, objectif zéro plastique, fabrication locale, belle finition, voilà, des beaux produits de qualité qu'on est fiers de porter.
Voilà, c'est un projet très personnel en même temps.
Oui, tout à fait.
Ben, je vous souhaite bon vent.
Merci.
Voilà donc, eh bien, 5 chefs de projet. On leur souhaite bien sûr bonne chance. On reviendra peut-être avec d'autres présentations dans les prochains mois. Et c'est vrai que chaque semestre, le lieu accueille de nouvelles entreprises. Je pense que la date de sélection est passée maintenant, donc on doit savoir bientôt qui va redémarrer un nouveau cycle avec eux. Voilà, donc c'était bien sûr Louvre-Lens-Vallée, donc un lieu... J'irai bientôt d'ailleurs, il y a un événement qui est prévu dans pas très longtemps, peut-être l'occasion d'un autre reportage.